Nous sommes toujours en direct du Collège Pierre Corneille de Tours pour une journée un peu spéciale dans le cadre de la semaine olympique et paralympique. On vous fait un petit tour des différents intervenants de cette journée et tout de suite nous accueillons sur notre plateau Monsieur Diès. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous qui êtes responsable du pôle du judo du collège, entraîneur pôle espoir judo, est-ce que vous pouvez nous présenter plus concrètement votre métier ?
Alors moi je suis cadre technique de la Fédération Française de Judo depuis 2003, donc j'ai pris le poste de cadre technique en 2003, donc ça fait 17 ans maintenant, et j'ai trois missions principales. La première, c'est la promotion de l'activité, donc c'est-à-dire le développement, faire connaître notre sport auprès des collectivités, des centres aérés, des municipalités, essayer de développer les infrastructures qui peuvent accueillir des clubs de judo pour augmenter le nombre de licenciés. Donc ça, c'est mon action promotion. J'ai une deuxième action qui est la formation continue et la formation initiale. Donc la formation continue, c'est la mise en place de stages pour les professeurs de judo. Et la formation initiale, c'est la préparation des contenus et la préparation des examens pour devenir professeur de judo. Et ensuite, la mission sportive, qui est celle qui me prend le plus de temps, qui est à la fois de l'entraînement, à la fois du suivi en compétition, mais aussi de l'organisation de manifestations sportives sur le département et la région.
STF37, qu'est-ce que c'est ?
CTF37, c'est conseiller technique fédéral du département de l'Indre-et-Loire. Mais mes missions maintenant ont évolué depuis quelques années et j'ai la responsabilité sur la région Centre-Val de Loire de ce qu'on appelle le bassin sud qui regroupe les départements du Cher, de l'Indre et de l'Indre-et-Loire.
Quelle est la place des filles aujourd'hui dans le judo ? Est-ce que vous avez des axes de travail autour de ces questions ?
Tout à fait. Donc, le pourcentage actuel au niveau de la Fédération Française de Judo, c'est 30-35% de pratiquantes, ce qui n'est pas assez encore. On est toujours en recherche de développement sur cet axe-là. Et puisque vous me posez la question, vendredi la semaine dernière, on a organisé un entraînement départemental féminin destiné aux licenciés, mais également aux non-licenciés, EES, pour faire découvrir l'activité judo, mais également l'activité jujitsu self-défense. On a organisé ça au dojo de Saint-Pierre-des-Corps. Donc on essaie de mettre en place de plus en plus d'actions à destination des féminines. C'est vraiment un axe prioritaire de notre fédération.
Est-ce que vous pouvez nous présenter le jujitsu
Aujourd'hui, la Fédération Française de Judo se dénomme FFJDA, c'est Fédération Française de Judo et Disciplines Associées. On a différentes disciplines associées au judo, que sont le jujitsu, la self-défense, le taïso, le sport shambara, le judo kata. Le jujitsu, pour la petite histoire, je vais vous le faire quand même assez rapidement, c'était le sport qui était pratiqué par les samouraïs. C'est-à-dire que quand les samouraïs étaient à terre et qu'ils avaient perdu leurs armes et qu'ils combattaient, eh bien ils combattaient à main nue. Et ça, c'était le sport des samouraïs, le jujitsu. Et donc voilà, c'est un sport qui... Enfin, c'est une activité qui est devenue un sport et qui a traversé les temps. Aujourd'hui, le jujitsu, on pourrait dire que c'est une façon de se défendre à main nue. Voilà. Et il y a un courant un petit peu différent, mais qui est issu du jujitsu, qui s'appelle la self-défense, qui se pratique pas forcément avec un kimono, ce qu'on appelle un judogi, mais dans une tenue de ville, et c'est apprendre à se défendre, alors pas à se battre, hein, j'insiste sur le fait de se défendre, c'est-à-dire répondre à une agression de façon proportionnée pour désarçonner un agresseur.
Puisque vous nous en parlez, on se demandait avec Chloé si pour vous ces sports, c'était plus des sports d'attaque ou de défense du coup ?
Alors clairement de défense, alors vraiment clairement. Après, il ne faut pas perdre de vue que c'est devenu un sport et qu'aujourd'hui on n'est plus du tout, même dans la volonté, de quand on parle de judo, de se défendre, mais juste dans la pratique d'un sport. Alors effectivement, après on peut s'en servir, mais je pourrais faire le parallèle avec par exemple un rugbyman qui se ferait agresser, puis quelque chose, il peut rattraper, mettre un plaquage. Voilà, c'est aussi une utilisation de son sport. Mais nous, le judo aujourd'hui, c'est pas une il n'est pas pratiqué pour se défendre. Voilà, c'est un sport comme un autre. C'est avec un but, c'est de faire tomber, de marquer ippon, ou en immobilisant, en faisant tomber sur le dos son partenaire. Mais il n'y a pas une volonté de se défendre avec le judo. C'est un sport à part entière.
Ok. Monsieur Diès, aujourd'hui, vous proposez un atelier auprès des élèves de 5e. Et alors, qu'est-ce que vous leur faites faire ?
Alors, la volonté, c'était de faire un parallèle entre l'activité sportive et les valeurs qui sont développées dans le sport, savoir comment on peut les réinvestir après dans le monde professionnel. Donc voilà, j'ai travaillé sur la transversalité des valeurs développées dans le sport et qu'on peut retrouver dans le monde professionnel. On a parlé également de l'olympisme, des valeurs véhiculées par l'olympisme. Et puis on a discuté autour des valeurs de la vie d'une façon générale.
C'est quoi les valeurs de l'olympisme ? Excusez-moi, je vous coupe.
Alors dans ce cas-là, c'est pas moi qui vais répondre, ce sont les élèves qui sont autour de moi. Quelles sont les valeurs de l'olympisme ? Parce que vous avez dû travailler dessus.
Le respect, l'excellence et une troisième, je ne sais plus, l'amitié.
Exact, bravo. Donc effectivement, on a parlé aussi de ces valeurs de l'olympisme, qui sont des valeurs importantes. Et on a eu un échange qui était assez intéressant avec les jeunes de 5e. C'était intéressant de voir aussi que, effectivement, c'est une volonté de l'olympisme de développer ces valeurs, mais qu'on les trouve au quotidien, que ce soit à l'école, dans la cour de récréation, que ce soit chez vous, dans vos familles ou avec vos amis. Ce sont des valeurs qui doivent vous animer au quotidien. Voilà. Et on a fait un parallèle qui était intéressant justement avec les matières qui sont enseignées à l'école. C'est-à-dire que voilà, il y a aussi, quand on est dans une salle de classe, le respect de ses camarades, de ne pas faire de bruit, de son enseignant. L'amitié, ben, c'est ce qu'on essaie de développer ou ce qui se fait naturellement avec les copains de sa classe. Et puis l'excellence, c'est ce qui doit vous animer tous. C'est-à-dire vraiment essayer de donner le meilleur de vous-même pour être le meilleur possible et avoir la meilleure note possible ou la meilleure évaluation.
D'accord. Et à quel âge avez-vous obtenu votre ceinture rouge ?
Alors, je ne suis pas ceinture rouge. Je suis ceinture noire. Alors, c'est pas grave, hein, je vais juste vous expliquer. Pour la petite histoire déjà, au judo, au Japon, qui est le berceau du judo, il n'y a pas de ceinture de couleur. On est ceinture blanche. Et au fil des années de pratique, le professeur dit, voilà, maintenant tu es prêt, tu peux te présenter à l'examen de ceinture noire. Et le japonais qui a développé le judo en France, Maître Kawashi, qui est décédé depuis longtemps, il s'est aperçu que la mentalité européenne et particulièrement française avait besoin d'échelons, en tout cas de marquer l'évolution, et c'est lui qui a inventé les ceintures. Donc en Europe, on a les ceintures blanches, jaunes, oranges, vertes, bleues, marron et noires. Et quand on accède au grade de ceinture noire, il y a des dan qui marquent la progression technique, l'acquisition technique. Donc, actuellement, je suis 4e dan, je prépare mon 5e dan pour l'année prochaine. À partir de 6e dan, on n'est plus ceinture noire. On est ceinture blanche et rouge. 7e dan, 8e dan, et c'est à partir de 9e dan qu'on devient ceinture rouge. Alors, vous voyez, j'ai quelques cheveux blancs, mais je peux vous dire que si un jour j'arrive à être ceinture rouge, j'aurai les cheveux tout blancs. Parce qu'il faut avoir beaucoup d'expérience, beaucoup d'années de pratique, et il y a des délais entre les grades. Par exemple, là, moi, il a fallu que j'attende 5 ans pour pouvoir présenter mon 5e dan. Voilà.
Et moi, j'avais une petite question, parce que ce matin, les chefs d'établissement nous ont parlé un peu du paralympisme, justement, dans le judo, avec une section un peu handi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous voyez une évolution, justement, dans ce monde, du judo en général, des sports comme ça, dans le paralympisme, ou même l'handisport en général ?
Alors, je vais parler pour le judo. On a pris beaucoup de retard dans ce milieu paralympique. On est très en retard. Alors on a une championne paralympique qui est d'ailleurs de la région Centre-Val de Loire, qui s'appelle Sandrine Martinet, qui est excellente judoka. Et en fait, on a pris beaucoup de retard dans le process de détection. C'est-à-dire que, en fait, les jeunes étaient isolés. On a toujours accueilli dans les clubs de judo des judokas avec des déficiences sensorielles, qu'elles soient visuelles, auditives. Mais voilà, il n'y avait pas plus de travail qui était fait en direction de ces pratiquants. Et depuis maintenant une Olympiade, ça s'est un peu accéléré, mais le retard ne se rattrape pas comme ça. Et moi, un de mes meilleurs amis, entraîneur de l'équipe paralympique en judo, Andy Judo, donc Cyril Pagès, qui est aussi passé par le Collège Corneille d'ailleurs, avant moi. Et on a discuté et on a dit que ce serait bien un jour de mettre en place un projet sur le Collège Corneille pour accueillir des jeunes handis sensoriels. Alors j'insiste sur sensoriel parce qu'après, on a investi aussi le milieu sport adapté, c'est-à-dire handicap mental. Et à ce sujet, d'ailleurs, les jeunes que j'ai en sport études interviennent chaque année. On organise une compétition en sport adapté et je les fais intervenir auprès de ce public-là parce que c'est toujours une belle expérience de vivre une activité sportive partagée avec des gens voilà, qui ont un handicap. Et c'est pas pour ça qu'on n'arrive pas à partager avec plaisir la même activité. Donc on avait discuté du projet de créer quelque chose à Corneille. Et avec l'aide de Mme Vasseur et de M. Nico, de l'inspecteur de PS, de Mme Fajou, de tous les acteurs qui peuvent intervenir et mettre en place et aider à la mise en place d'un tel projet, en septembre 2020, nous ouvrons une section handi-judo. Alors nous avons actuellement un judoka qui est en inclusion dans le groupe sport-études qui s'appelle Aurel Guenry, qui est un excellent judoka, qui travaille très bien à l'école, qui est un excellent judoka et qui pratique au quotidien avec les valides. Donc on a juste des choses à mettre en place pour assurer sa pratique d'un point de vue sécuritaire. Mais il est très autonome et ça a été aussi une aide de sa part dans la construction de ce projet parce que ça a montré qu'on était capable, le judo et le collège, d'accueillir l'IRCOV, qui est un institut qui accueille les jeunes handis, qu'on était capable d'accueillir et de mettre dans de bonnes conditions, et surtout dans des conditions de réussite optimales, d'un point de vue scolaire et sportif, des jeunes collégiens. Donc voilà, donc on commence à faire la promotion de cette structure qui va ouvrir en septembre 2020, et c'est un vrai plaisir de pouvoir étendre notre activité et de la proposer à des jeunes handis.
Merci.
On a bien discuté déjà,
oui.
C'était bien. Hein,
oui. Merci beaucoup.
Et ben, merci à vous pour vos questions. Merci. Je vous souhaite une bonne journée.
Merci à vous aussi. Merci.